Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Kipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ah, ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Où,
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonani, t'estimas fuentes.
Bonsoir, chères auditrices, bonsoir, chers auditeurs. C'est ce que tu voulais dire, mon cher Abel,
Oui, mais tu sais que 2 jours en Catalogne française à Banyuls ont suffi pour faire de moi un vrai local.
Et oui, chers amis, auditeurs de cours d'honneur.
Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans notre habituel studio de la Sorbonne.
C'est pas parce que Macron a décidé de bloquer, rassure-moi.
Mais non, ma Lolo, nous sommes ici en terre catalane pour découvrir le centre de recherche de biologie marine de la Sorbonne.
Depuis 3 jours, vos fidèles équipes de cours d'honneur arpentent l'observatoire océanologique. Elles sont allées à la rencontre des chercheurs, des enseignants, des étudiants du campus délocalisé de notre chère faculté.
Et oui, après Roscoff, nous visitons la 2e station biologique de la Sorbonne avec une question en tête.
C'est quoi être étudiant et prof dans ce campus lointain de la Sorbonne ?
Et qui d'autre, ma chère Laudine ?
Mais oui, c'est nous, mon cher Abel, qui y répondons.
Ensemble, pendant 2 heures, la meilleure émission.
De la meilleure radio.
De la plus belle fac de France.
En direct de la grotte familiale de Thomas.
Va vous faire vivre une expérience unique.
Avec du rire, toujours.
Mais aussi des entretiens exclusifs.
Monsieur Finkielkraut ?
Je vais répondre. Tout de suite, là ? Ça a commencé ?
Ben oui, ça a commencé.
L'émission a commencé.
Ben, on est à l'antenne depuis 5 minutes.
Et obligé avec le soleil du sud.
Heureusement qu'avec tout ça, il y a de l'amour.
Ah, les petits cons, ça y est. Ils ont réussi à me jeter par-dessus bord.
Accompagné toujours d'une équipe aussi solide que la tolérance de Thomas en alcool.
Victoire, notre petite mouette préférée. Comment ça va, Victoire ?
Ça va très bien. Mieux que vous. J'espère faire une meilleure émission que le début de cette animation chaotique.
Je vais pas dire,
c'est fini.
Alors, Lilou, la pêche à la morue, c'était bien ?
Bah écoute, c'était super, mais je me suis pas encore baignée, je suis un peu déçue.
Ça va arriver, je te le promets. Sora, la photographe désignée de notre équipe, comment ça va ce soir ?
Bah moi ça va, je suis sudiste, donc je suis dans mon
sudiste
élément.
Avec l'accent, c'est parfait.
Et Isa Margaret, spécialiste des poissons maintenant ?
Ça va très bien, j'ai une vue magnifique avec des mouettes qui dansent pour nous et pour l'émission, donc super.
Ça c'est incroyable. Et Jeanne, il paraît que t'es devenue bilingue japonais et brésilien.
Et oui, juste pour l'occasion. Et surtout, je m'attendais à du soleil dans le sud et je suis extrêmement déçue.
Ah, c'est le thème de cette émission, c'est le mauvais temps, je sens.
Oui.
Et Maëlys, alors tu t'en es sortie avec le reportage ?
J'ai cru que j'allais mourir, mais j'ai fini par m'en sortir avant de finir noyée.
Madeleine, devenue professionnelle du découpage de carottes, comment ça va ce soir ?
Ça va, j'ai un peu mal au bras du coup, mais tout va bien.
2 sacrés animateurs.
Pour une sacrée équipe, mais n'oublions pas Thomas qui s'est baigné aujourd'hui. Elle était comment l'eau aujourd'hui ?
Excellente, merveilleuse, j'ai même 2 micros rien que pour moi, c'était génial, c'est un plaisir de vous accueillir ici, un plaisir d'accueillir notre invité aussi.
Et oui, Vincent, c'est ça, Vincent, comment ça va ?
Eh bah très bien, très content.
Et bah on va te poser plein de questions, on va te torturer pendant 2 heures, sois prêt.
Vas-y, y'a pas de soucis.
L'invité, tu es, dis-nous qui es-tu ?
Alors moi je m'appelle Vincent Bizic, donc je suis en Master 2 actuellement à Banyuls pour un stage de fin d'études.
Et tu vas nous parler de la vie étudiante ici à Banyuls.
Une équipe de reporters chroniqueurs au-dessus de la moyenne régionale.
Une équipe technique composée d'un seul homme mais qui bosse comme 10.
Bref, une sacrée équipe pour une sacrée émission.
Un vendredi par mois sur le 93.9 de l'autoradio.
En podcast 2 fois par mois.
Saison 3, épisode 21. CDA, à qui t'emmène Ananar.
Et à la maison, comme en province.
Il n'y a pas d'autre manière que de commencer un épisode.
Que par l'édito.
La carte blanche de RSU.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, c'est vraiment facile.
Carte blanche.
T'aimes bien Banyuls, toi, Lodine ?
Non, franchement, c'est nul. Y a pas de métro, y a pas de piste cyclable, et je suis trop dépise.
Ah là là, la parisienne en province. Laisse notre amie Lilou te convaincre de revenir y passer tes vacances.
Voici le top 5 de ce que Banyuls vous propose de mieux.
Eh oui, hola amigos. Et j'ai sorti mon meilleur accent espagnol parce qu'on est tout près du pays des churros. Alors non, on n'est pas au ski, voilà, on n'est pas les bronzés fond du ski, mais on est un peu entre les deux, parce qu'on est dans le sud et parce qu'il pleut. Et puis, comme on est un peu une équipe de bras cassés à la Jean-Claude Duss, on vous a quand même concocté une émission de folie. Mais quoi de mieux pour vous introduire à Banyuls que de vous présenter cette jolie station balnéaire au bord de la Méditerranée, qui est aussi la terre d'enfance de Thomas. En bref, voilà nos 5 endroits incontournables qu'on a découverts pendant notre séjour à Banyuls. Alors, tout d'abord, premier arrêt, le Blabla, un bar très qualitatif avec son bon son, qu'on a failli réquisitionner pour y enregistrer notre émission. Mais malheureusement, il n'était pas dispo, ce qui ne nous empêchera pas d'aller y déguster une petite bière après les démissions pour nous récompenser de ce dur labeur. Et d'ailleurs, vu sur la place, hier soir, on a aussi vu Abel, Lodine et Thomas un peu rouges, si vous me permettez. Top 4, la Crique. Donc, c'est un petit endroit caché auquel on accède qu'en passant par les rochers. C'est une jolie petite plage qui fait le charme de la ville et où l'équipe est allée se promener tout à l'heure. Alors hier après-midi, on a vu Thomas se baigner dans la pluie sur la plage principale. Et c'était assez iconique. Donc, rien que pour ça, on salue l'artiste. Et là, plus le top se resserre, plus on va vous présenter des lieux incroyables, inclus dans la station dont on vous reparlera juste après. L'aquarium, c'était sûrement un de nos lieux préférés parce qu'on a pu le visiter en long et en large. Et il est assez grand, il y a 3 étoiles, il y a même une étoile de mer énorme de 60 cm. Abel a eu super peur. Et ce qui est hyper cool, c'est que c'est à la fois un aquarium touristique et un lieu pour la recherche. Les vitres des bassins communiquent entre les labos de l'aquarium et donc on peut voir l'envers du décor. Quoi de mieux pour se familiariser avec l'observatoire qui rythme la vie de la vie de la ville. Mais Isa Margaret, je crois que tu vas nous le présenter juste après. Et ensuite, évidemment, on ne pouvait pas ne pas vous parler de l'observatoire océanologique de Banyuls, c'est quand même pour ça qu'on est là. C'est la raison même de notre visite, on y a passé la plupart du temps, on a vu les enseignants-chercheurs, on a visité les salles, on les a vus en plein travail, et on a un peu découvert ce que c'est de travailler au bord de l'eau. Donc j'espère qu'on pourra vivre ça un jour. Et que dire de plus, je vais pas vous spoiler l'émission, mais sachez qu'on a adoré. Et évidemment, le meilleur endroit de tout le séjour, et peut-être de tout le sud entier, j'ose le dire, venez me contredire, c'est sûrement la terrasse ou mezzanine de Thomas, ou plutôt de la grand-mère de Thomas, où on est actuellement installé. Donc si vous nous regardez en direct sur Twitch, cours d'honneur sur Twitch d'ailleurs, rejoignez-nous maintenant. Pour les autres, je vais vous le décrire. C'est un endroit très cosy avec la vue sur la baie de Banyuls, sur la plage principale, sur la promenade. Bref, une vue magnifique où Thomas a sûrement déjà vécu sa meilleure vie. Et nous aussi, on a kiffé travailler ici ces 2 derniers jours. Donc merci Thomas. Et maintenant, chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes prêts pour suivre notre émission.
Hello pour tous ces super spots. Est-ce que notre invité Vincent en aurait d'autres à nous conseiller ?
Le local.
Alors là, vous avez cité le Blabla, donc qui est un bar qui est, où on se retrouve tous en tant qu'étudiants, mais il y a aussi les 9 caves, qui est un endroit où vous devriez aller, parce que il y a vraiment un bel espace, on peut boire du vin, jouer au ping-pong et faire du baby-food, donc ça c'est super sympa. Et forcément, bien sûr, toute la réserve naturelle, le sentier sous-marin, à aller visiter, à aller se promener, où c'est vraiment, vraiment super sympa.
Okay, nous serons prévenus pour la prochaine fois. Vous savez, chers auditeurs, chères auditrices, que Lodine, elle a un très grand talent. Elle parle le poisson.
C'est vrai, je tiens ça de mes ancêtres. Mais d'ailleurs, on n'a pas un reportage dans un aquarium ?
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Isa, tu as suivi Vincent Glady qui t'a fait découvrir l'aquarium.
J'espère qu'elle parle le poisson.
C'est avec Vincent Glady, soigneur plongeur passionné, que nous embarquons pour une visite de l'aquarium public de Banyuls-sur-Mer, un véritable voyage au cœur des espèces méditerranéennes avec pas moins de 220 variétés à découvrir.
Mon rôle, donc, c'est soigneur plongeur. Mon objectif principal, c'est de m'occuper au quotidien des poissons, quoi, de job, disons, c'est plongeur. On va plonger 2 fois par semaine pour tout ce qui est entretien, parce que les vitres, si on nettoie pas la vitre, au bout de 3-4 jours, on va avoir des algues qui vont se développer sur les vitres et ça va être problématique pour les visiteurs.
Dès votre arrivée au premier étage, le premier aquarium met en scène les divers lagunes du côté de Canet et de Perpignan, au sein desquelles la salinité de l'eau et la température varient beaucoup en été et en hiver.
Donc le premier aquarium qu'on peut trouver, par exemple, c'est la côte sableuse entre Argelès et Perpignan. On a des longues étendues de sable et donc c'est la faune qu'on peut trouver, les poissons qu'on peut voir sur cette côte sableuse. Donc il y a des dorades, on a des raies, des sards, on a aussi un grondin volant là, qu'on a ici. Il est assez remarquable ce poisson parce qu'il a des grandes ailes et il est vraiment surprenant et les gens l'aiment beaucoup, quoi.
Vous y retrouvez des méduses de l'espèce Aurelia aurita tout au long de leur cycle de développement du stade polype à l'éphirule jusqu'au stade de méduse adolescente, puis adulte.
On fait l'élevage entier, on fait tout le cycle de la méduse, c'est-à-dire qu'on a des polypes. Après, il va se segmenter en toutes petites éphirules, donc c'est des bébés méduses. Et on les place dans des chrysales, c'est-à-dire que c'est des aquariums de forme arrondie. Et au bout de quelques mois, on obtient des méduses, disons, adolescentes. Et après, on met les adultes dans un plus gros chrysale, voilà, de 250 litres à peu près. Voilà. Et on les maintient un an et demi.
Le musée met un point d'honneur à enseigner le monde marin au travers d'un bassin pédagogique.
Donc les animateurs du biodiversarium qui vont pouvoir montrer des invertébrés, des gorgones, des éponges. Aussi, c'est une petite zone nurserie où on met nos bébés, disons, nos œufs de roussette qui est dans la famille des requins. Et donc on a des petits bébés roussettes, donc ces petits bébés requins.
Et si vous pouviez voir ce qui se passe dans une faille marine à l'île Grosse, de nuit, sans même enfiler une combinaison.
On a le bassin médio-littoral. C'est juste une représentation exacte d'une faille qui se trouve à l'île Grosse, là, sur la digue qu'on voit là. Donc ça, c'est les responsables de l'aquarium. Ils ont travaillé sur les photos, sur une photo exacte d'une faille qui existe vraiment. Tous nos aquariums, on essaye de respecter qui est vraiment dans la réalité ce qu'on peut voir sous l'eau. On essaye de faire un bac nuit et montrer ce qu'on peut voir la nuit dans cette faille à l'île Grosse. Donc on a des petites cigales, des crevettes et aussi on présente la murène. Et la murène qui va plutôt sortir de son trou la nuit pour chasser et pour pouvoir se nourrir.
En descendant au niveau inférieur, comme si vous plongiez, vous apercevez des espèces qui se trouvent à 30 mètres de profondeur.
Là, c'est comme si on allait s'équiper d'une bouteille de plongée, parce qu'on va descendre, on va pouvoir observer des poissons qu'on peut observer qu'à partir de 15-20 mètres, donc accessible qu'en plongée sous-marine.
Bien sûr, les poissons visibles dans le musée ne sont pas condamnés à y rester. Ils en retrouveront leur milieu après s'être développé.
Nous, notre objectif, c'est de... On ne va pas garder les poissons indéfiniment dans nos aquariums. On fait un turnover, c'est-à-dire qu'on va essayer de récupérer des petits poissons et de les faire grandir quelques mois dans nos bassins. Et puis après, au bout de X temps, on va les remettre et les relâcher en mer. Donc ils ne sont pas là pour un temps indéfini. On va les garder juste quelques mois, avec comme le poulpe. Un poulpe, ça vit pas très très longtemps, ça vit à peu près 3 ans. Donc, on va le garder que quelques mois, on le prend vraiment petit, on peut pas mettre un gros poulpe. Comme en Club Med, il a vu mer, on lui donne à manger tous les jours, et après on va le relâcher là où on l'a trouvé.
Ah là là, quel bel aquarium. Moi j'ai adoré le visiter. Pour celles qui ont eu la chance de le visiter, vous en avez pensé quoi de l'aquarium?
J'ai eu l'occasion de le
visiter. Isa, alors, qu'est-ce qu'on a pensé?
Alors, j'ai adoré voir les petites méduses. Parce que dans la vie réelle, je déteste les méduses parce qu'elles font très très mal. Et quand on les voit dans un musée, on les voit souvent à un état, soit petites, soit grandes. Et là, on a l'occasion, à l'aquarium de l'Observatoire de Banyuls, de voir 3 états de la méduse. Okay. Et pour les voir grandir.
L'adolescence, l'enfance et l'âge adulte.
Ouais, exactement.
Ok.
Donc j'ai adoré.
Vincent, toi tu le kiffes l'aquarium? Tu passes du temps, j'imagine?
L'aquarium, je le kiffe et j'adore vraiment me poser, tu vois, devant les bacs et chill comme ça pendant des heures.
Vraiment?
Ah, vraiment.
Ça c'est cool ça. Les autres, Victoire, qu'est-ce qu'on a pensé?
Avec Lilou, moi personnellement j'ai pas vu l'aquarium mais j'ai très bien vu la boutique. Super. Au top.
Ils ont des belles peluches, j'ai l'impression. Je crois que Claudine voulait se prendre une petite peluche tortue.
Ouais, une petite peluche tortue, j'avoue.
D'ailleurs, l'aquarium est récent puisqu'il a été inauguré en 2017. Mais sachez qu'auparavant, il y avait un aquarium dans le bâtiment historique du laboratoire, qui à l'époque s'appelait le laboratoire Arago, justement, avant que ça devienne l'observatoire océanologique. Et cet aquarium a été détruit il y a quelques années. Mais c'est les souvenirs qu'ont les Banyulinques d'attachés, puisque l'entrée était gratuite. Donc, ils étaient très attachés à ce petit laboratoire qui est devenu plus moderne, celui qu'on a pu visiter, qu'Isa Margaret a pu visiter aujourd'hui pour RSU.
Tu l'as visité, évidemment.
Oui. Évidemment, comme tous les Banyulins.
Les petites anecdotes de Thomas, c'est toujours un régal. Moi, Lodine, je trouve qu'il y a une vraie énergie de famille dans l'équipe, tu trouves pas?
Ouais, j'avoue, avec Victoire, la petite sœur.
Thomas, l'oncle grincheux.
Lilou, la cousine folle.
J'ai envie de dire, Lodine, tu es la famille.
Musique.
West come back, et ça me fait gros. Marseille. Cosmopolitan Niro. Tous unis, tous ensemble. On n'est pas des milieux sur Terre. On est des milliards. Black, blanc, beurre. Tout le monde, c'est la famille. Et va, gros.
Tu es ma famille. C'est la famille.
Et va.
Tu es la famille. Tu es la famille.
Et là, tu le sens.
Tu es la famille. C'est la famille.
Va, gros. que c'est la famille. Tout le monde, gros. Ta cousine, ta cousine, ton père, ta mère. Tout le monde, c'est la famille, gros. Même le Parisien, c'est la famille. Voilà, parce que tu portes le maillot du PSG, hein. J'ai la famille, j'ai la famille.
C'est quoi, c'est la famille? Qu'est-ce que tu es?
J'ai la famille.
Je mets que le sucre. Et qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas vivre, je sais fébrile. Ah bébé, et viens faire un tour dans le Grand Sud, en la famille. Viens te boire un coup, un petit jaune. À main donnée. Si tu cherches la plage, pas la plage, le soleil, pas le soleil. C'est ici que ça se passe, à Marseille. Tu es le bienvenu. Et tu sais pourquoi, moi? Parce que
j'ai la famille. C'est la famille. J'ai la famille,
c'est quoi, c'est quoi?
J'ai la famille,
j'ai la fafa.
J'ai la famille,
c'est quoi, c'est quoi?
C'est la famille,
qu'est-ce que tu es?
J'ai la famille,
c'est quoi, c'est quoi?
J'ai la famille,
j'ai la fafa.
J'ai la famille,
voilà le tour.
C'est la famille,
j'ai ça,
j'ai la famille,
voilà tout là.
J'ai la famille,
j'ai la mère.
J'ai la famille,
eh, grand jure.
C'est la famille,
soprano.
J'ai la famille,
j'espère.
J'ai la famille.
Cette histoire de rassembler un peu tout le monde.
Abel, quand on se fait piquer par une méduse, qu'est-ce qu'on doit faire?
Je sais pas moi, mais sachez que sur Cours d'honneur au 93.9, on vous dit qu'il faut se pisser dessus en fait.
Ah, Berk, je suis pas convaincue. Hein. Demandons plutôt à Victoire.
Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Victoire, Madeleine, vous avez suivi trois chercheuses de l'équipe des Cordées qui vous ont parlé animalerie et méduses.
C'est dans un petit bureau de l'observatoire que nous rencontrons Anaëlle Soubigou, thésarde, Lucille Cornan, assistante ingénieure, et Lucie Subirana, ingénieure d'études au CNRS.
Nous, on est l'équipe évolution et développement des Cordées. Et on travaille sur un animal qui s'appelle l'amphioxus. Donc c'est un petit invertébré marin, un céphalochordé, qui vit enfoui dans le sable et qu'on retrouve ici sur nos côtes. Et donc c'est le bateau, la Néréis du labo qui va chercher ces bailles de sable qu'on passe à tamiser pour récupérer les animaux. Et après on les met dans l'animalerie. Et nous on travaille principalement sur le développement embryonnaire. Donc on fait pondre les animaux. Il y a une méthode qui a été mise au point par l'équipe il y a quelques années pour faire pondre les animaux en laboratoire. Donc il faut savoir qu'ils pondent la nuit et l'été. On récupère les gamètes, on fait les fécondations nous-mêmes et ensuite on fait nos expérimentations. Donc il faut savoir que ça c'est juste 3 mois dans l'année. Donc on fait nos stocks d'embryons, d'expérimentations pendant cette période-là et ensuite tout le reste de l'année on traite la suite des expérimentations.
Afin de mieux comprendre leurs études, elles nous emmènent dans l'un des nombreux laboratoires de l'observatoire pour nous montrer les amphoxus à la loupe binoculaire.
Ça ressemble à un petit ver. Alors ça n'a pas d'œil, vraiment à proprement parler, ça n'a pas de nageoire. Et sa vie enterrée dans le sable, il a juste la partie antérieure qui dépasse, okay. On peut appeler la tête. Oui. Voilà. En fait, c'est une structure hyper simple. Donc, vous voyez, ça fait comme des V sur le corps. Ce sont ses muscles, on dit que ce sont des muscles en chevron. Et c'est ça qui lui permet de bouger. Pour se reproduire, donc il faut qu'il sorte la nuit. Les gamètes sont relâchés dans la colonne d'eau et la fécondation se fait naturellement au hasard dans la colonne d'eau. Les embryons vont rester dans cette colonne d'eau pendant plusieurs mois jusqu'à arriver à un stade où il va se métamorphoser. Un petit adulte. Et donc là, une fois qu'il aura métamorphosé, il va faire comme ses parents. Il va se réenterrer dans le sable. Et voilà, ça c'est le cycle de vie.
Avant d'être observé, les amphioxus sont pêchés et mis en culture dans l'animalerie. Afin d'être fidèles à leurs conditions d'évolution naturelle, le dispositif de culture est strict.
Donc on a des changements d'eau qui se font plusieurs fois par jour. Et on a ici un bac tampon, donc l'eau elle est chauffée à 17 degrés, puis elle est envoyée via ce réseau-là. On a un cycle jour-nuit avec des LED. Et là, tu vois, on les a mis dans le sable. Si je secoue un peu le sable, tu vas les voir sauter. Voilà. Voilà, ça, c'est grâce à leurs muscles en chevron tout le long du corps. Ça leur permet d'avoir ce mouvement un peu comme un ver.
Un peu plus loin dans le bâtiment, nous retrouvons son collègue Frédéric Sanchez, assistant ingénieur dans l'équipe des méduses. Il s'intéresse à deux espèces en particulier.
La plus petite et la plus discrète, c'est Clitia hemispherica, qui est une petite méduse transparente qui fait de l'ordre de quelques centimètres et qui est la championne de la régénération. Donc on peut la couper et elle va se régénérer en 24 heures. Et on a l'autre méduse modèle, qui est la Pelagia nautilica, qui est la plus connue des touristes parce que c'est celle-là qui pique. Et qui est très urticante et qui a tout un modèle de développement biologique très singulier. Et elle, dans l'équipe, elle est utilisée comme modèle pour étudier la formation du muscle, ce qui ressemble un peu à la formation du muscle chez les animaux, qui peut après, à terme, peut-être servir sur tout ce qui est étude de la dégénération musculaire ou les choses comme ça. Et là, caché derrière, vous avez les polypes. La salle est allumée toute la journée. La lumière provoque le développement de microalgues. Pour réduire au maximum cette pollution, entre guillemets, on cache au maximum. À terme, on aura les animaleries qui seront derrière des rideaux. En fait, c'est assez rigolo. Ça fait comme des petits palmiers qui vont produire des petites méduses en continu. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est comme les tortues. En fonction de la température à laquelle se fait le polype, vous avez des femelles ou des mâles.
Pour finir la visite, Lucie Subirana nous explique que son rôle est également de faire un travail de sensibilisation de la population et c'est la raison pour laquelle vous pourrez retrouver son équipe à la Fête de la Science.
Mea culpa. Vincent, la caution sérieuse et scientifique de cette émission vous le dit, non, ne vous pissez pas dessus quand vous faites piquer par une méduse, c'est ça?
Ouais, non, clairement pas. C'est un peu les gens chelous qui font ça.
Ok, alors merci pour le...
Désolé Abel.
Et qu'est-ce qu'il faut faire alors?
Le mieux, alors de ce qu'on m'a dit, c'était de passer du sable sur l'endroit où tu as été piqué pour justement enlever tous les petits piquants des méduses qui sont dans ta peau et qui créent la douleur. Et de passer de l'eau chaude justement pour la calmer, la douleur.
Ok, je crois que Victoire, tu voulais dire un truc sur les méduses ou une rectification?
Ouais, c'était hyper intéressant. On a été super contentes de faire cette visite. On a du coup découvert ce qu'était l'amphioxus. Et c'était vraiment c'était super cool, donc merci à elle de nous avoir accueillis.
Merci à elle de vous avoir accueillis.
Et merci à vous d'avoir fait le reportage. Et vous, fidèles auditeurs, vous le savez,
la grande question de notre émission, c'est...
Être étudiant à la Sorbonne, c'est quoi?
Pour y répondre, tout de suite un reportage sur la vie étudiante à Banyuls.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez la vedette, la table!
Lilou, hier après-midi, tu as suivi l'enseignant-chercheur Raphaël Lamy, qui vous a fait une visite guidée du campus et du foyer étudiant, bien sûr.
Raphaël Lamy est maître de conférence à la Sorbonne Université, chercheur en microbiologie marine et responsable de l'enseignement. Il nous parle de la vie étudiante sur le campus de Banyuls.
On est un campus complet, même si on est un petit campus, on a toutes les facultés d'un campus, donc c'est-à-dire tout ce qui est hébergement, restauration, et puis salle de cours, salle de travaux pratiques et plateforme d'enseignement où les étudiants vont pouvoir suivre leurs cours durant toute la journée.
Premier arrêt, la salle des travaux pratiques, qui permet aux étudiants de faire leurs manipulations.
Alors ici, on a des paillasses pour suivre les cours, et puis vous voyez que tout est en vert, donc ça c'est pour aussi avoir des bons supports pour expérimenter. Toutes les salles sont équipées en arrivée directe de mer depuis la baie de Banyuls. Ça, c'est l'eau de mer qui arrive, on n'avait pas utilisé depuis quelques temps. Donc ça, et on peut directement récolter l'eau de mer, soit conserver des organismes ici, vivants par exemple, dans des aquariums, pour ensuite expérimenter, observer ces organismes.
Parfois, les étudiants embarquent sur le bateau bleu et jaune qu'on aperçoit à travers la fenêtre qui donne vue sur le port.
L'intérêt de venir en station à partir de là, c'est d'aller récolter le matériel. Donc la plupart des enseignements s'appuient sur une sortie ou deux, trois sorties bateau avec les étudiants. Ils ramènent ensuite le matériel qu'ils vont étudier pendant une semaine, 15 jours ici.
Un cadre idyllique qui pousse les étudiants à la recherche.
Souvent, c'est des cours qu'ils ont eu de façon très théorique à Paris et là, ils le voient avec leurs yeux. C'est beaucoup plus facile de les motiver, de susciter l'intérêt des étudiants une fois qu'on arrive à avoir à la fois deux échantillons jusqu'à l'observation.
On poursuit notre visite, direction l'amphithéâtre.
On va traverser, on va changer de bâtiment. En fait, dès son origine, la station était faite pour de l'enseignement. et de la recherche. Mais dès 1882, on accueille les premiers étudiants par des séjours à Pâques, c'est un séjour de 2 semaines, qui existe toujours d'ailleurs. Et donc les étudiants viennent toujours. Il y a une continuité historique qui est très forte.
C'est un amphithéâtre de 160 places, qui ressemble beaucoup à un amphithéâtre très classique de cours, avec une particularité, c'est qu'il a vue sur la mer.
En réalité, peu de cours y sont donnés car l'objectif à Banyuls, c'est de travailler sur des projets concrets. En voici un exemple.
J'ai un collègue qui fait des travaux pratiques sur ce qu'on appelle la neige marine. C'est de la matière organique qui va tomber au fond de l'océan. Donc on fait construire aux étudiants un petit piège, on va en bateau le mettre en mer, ils vont récolter toute cette matière organique qui tombe, c'est les algues qui meurent, etc. Ils vont la récolter et l'observer au microscope.
Chercheurs, ingénieurs, techniciens, autant de débouchés possibles pour les 800 étudiants reçus à Banyuls chaque année. Le soir, ils se réunissent dans le foyer où nous avons rencontré Basile. Il raconte à quoi ressemble son quotidien sur le campus.
On peut aller récupérer le matin des crabes, des oursins, des moules, des trucs comme ça. Et l'après-midi, on arrive, on fait nos manips, on fait nos expériences, on récupère nos données, on les analyse. Et à Banyuls, c'est proche de la nature. Il y a beaucoup d'activités à faire. Sinon, en termes de vie étudiante, est-ce qu'on sort? Oui, mais ça se limite à un ou deux bars, parce que Banyuls, c'est pas très grand. Mais si la question est-ce que j'en aurai un bon souvenir, je pense que oui. Clairement, que ce soit du côté social ou... étudiant.
Une vie étudiante tournée vers la nature et rythmée par le soleil de Banyuls.
Alors Vincent, toi qui es étudiant ici, c'est comment la vie étudiante à Banyuls ?
La vie étudiante, elle est vraiment focus autour du labo et du foyer avec les étudiants qui sont présents. On est vraiment entre nous, ça fait très, très colonie de vacances.
Vous vous connaissez tous ?
Alors en fait c'est assez marrant parce que quand t'arrives donc à Banyuls tu connais pas forcément les gens, même personne, parce que on vient vraiment des fois d'universités complètement différentes. Donc t'apprends à connaître les gens, leurs manies, tu cuisines avec eux, tu manges avec eux, tu travailles des fois avec eux toute la journée, donc au bout de 2-3 semaines ouais tu connais vraiment tout le monde.
Vous êtes combien à peu près d'étudiants ?
Là depuis janvier on est une vingtaine.
Ok, on les a pas tous croisés.
Ouais, non, mais on est peut-être un peu reclus des fois dans nos chambres, dans les labos.
Si vous croisez un jeune n'importe où dans la ville, il est forcément de la station.
Ouais, souvent, ouais.
Mais il n'y a pas que des étudiants ici.
Et non, il y a aussi des chercheurs qui bossent en laboratoire.
À quoi ressemble-t-il ?
Hey, this is not a test, this is rock and roll.
Sora, Victoire, vous avez eu la chance de vous infiltrer dans les labos. Vous nous racontez ?
Une grande partie du milieu marin et de ses ressources demeurent inexplorées. Le cœur de métier de Biodemar, c'est justement de contribuer à l'avancée de la recherche sur la biodiversité marine, mais également sur les biotechnologies bleues, c'est-à-dire la découverte de nouvelles molécules et leur exploitation. Karine Escoubérou est responsable de cette plateforme et elle nous explique l'intérêt de ce travail de recherche.
On se définit un peu comme des sentinelles hein, de l'environnement, c'est-à-dire que voilà, on met en place des protocoles pour rechercher des nouvelles molécules qui pourraient être un peu des bio-indicateurs de l'état du milieu. Donc on parle souvent de polluants apportés par l'activité humaine, mais on peut aussi partir de l'idée d'avoir des molécules qui pourraient donner un état de santé de l'environnement.
La plateforme Biodemar présente aussi un intérêt pour l'environnement. En effet, la découverte de nouvelles molécules dans le milieu marin pourrait permettre de trouver des solutions pour limiter sa pollution. Karine Escoubérou l'illustre avec l'exemple du biofouling, un phénomène courant en milieu marin contre lequel on pourrait lutter grâce à des solutions naturelles.
Le biofouling, c'est un problème qui est très important en milieu marin. C'est tous les dépôts qu'il y a sur les coques de bateaux, sur les structures en milieu aquatique. On sait que ce biofouling-là, il ne se met en place que parce qu'il y a un micro-fouling bactérien. C'est-à-dire que les bactéries, elles vont être dans le milieu naturel et elles vont communiquer entre elles en émettant dans le milieu naturel des molécules chimiques. Si on contrôle cette communication-là, on est capable de contrôler derrière l'installation de ce biofilm-là. Toujours dans l'idée de protéger l'environnement dans lequel on vit, l'idée c'est d'éviter d'avoir des peintures et des anti-foulings qui soient trop polluants pour l'environnement et de trouver une solution plus naturelle en utilisant ce que la nature déjà, en fait, elle produit, le fabriquer de manière artificielle et donc le mettre en place pour améliorer notre vie au quotidien. C'est la base de façon de toute chimie. Toute molécule au jour d'aujourd'hui qu'on utilise, c'est une molécule au départ qui a été produite par un organisme vivant.
La communauté scientifique, comme les entreprises privées, font appel à l'expertise de Biodomar pour analyser des échantillons de micro-organismes marins. Selon la responsable, c'est en fait la rencontre des différentes disciplines qui fait la force de cette plateforme et leur permet d'avancer dans la recherche.
On s'aperçoit que là où on est fort, c'est pas lorsqu'on cloisonne la science par expertise, c'est lorsqu'on met en relation, dans une même étude, les différentes expertises. On a des résultats qui sont beaucoup plus optimums que si on était cloisonné. Donc nous, c'est ce qu'on aime bien dans cette plateforme, c'est qu'on a c'est toujours cet échange-là. Moi qui suis par exemple chimiste, la biologie moléculaire c'est pas mon domaine, je dirige quand même la plateforme, c'est génial parce que j'en apprends tous les jours et on se fait des formations les uns aux autres et on fait un peu vie ma vie de biologiste ou vie ma vie de chimiste. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent lorsqu'on coince dans un sujet ou dans une réflexion ou un développement technique, souvent en fait un collègue a une idée, il n'est pas du domaine mais il a une vision, il a un regard extérieur par rapport à ce qu'on fait et ça nous aide bien alors qu'il n'est pas chimiste ou qu'il n'est pas biologiste. Et je trouve que c'est ça qui est super intéressant.
Sora, Victoire, bravo pour ce reportage. Tout le monde a été fasciné. Vous, quand vous l'avez fait, vous étiez complètement happé par le discours.
Ouais, c'est vrai que je connais absolument rien à la biologie marine et c'était super de découvrir tout ça. On a pu visiter les laboratoires. Malheureusement, vous pouvez pas les voir, mais en tout cas, ils contribuent à la société et à l'environnement marin. Donc, c'est super.
C'était bien vulgarisé.
Ouais, c'était super. On est vraiment arrivés. En disant on n'a rien compris, est-ce qu'il y a moyen que vous nous expliquiez de A à Z ce que vous faites de manière simple? Et on a compris. Donc.
Toi Vincent, toi qui bosses dans la recherche et surtout dans les milieux des sciences, tu sens que vulgariser au maximum ce que tu fais pour le grand public, c'est important, comme elle le fait très bien dans le reportage d'interlocutrice?
Alors c'est important, mais c'est extrêmement difficile. Ça c'est compliqué, c'est un super exercice des fois qu'on nous propose.
Ok, mais c'est hyper important et hyper intéressant, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. Tu as vu qu'il y a l'USAO qui joue ce soir?
Aidez-le pour les transitions.
Quoi? L'USAO? Je regarde que le criquet, moi.
Oh là là, malheur. Bref, tout de suite, une ode à la Catalogne.
C'est les Saka.
La visiteta em parlava de bon matí al portal mentre el sol esperaven i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats. Si no podem desfensar, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben curta. Cada deu ser ja, si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si set fa molt temps ja, les mans se'm van escorxar i quan la força se me'n va ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida però és que si et costa tant que cops la força m'oblida torna el teu pas. I estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben curt cada deu ser ja. Si tu l'estires
las por aquí y yo las tiro por allá. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. La bicisetja no diu res, mal vent que se'l va emportar. Et qui sap cap a quin indret i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets estiro el coll per cantar. El darrer cant de sisets, lo darrer que em va ensenyar. Si es tirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar.
Il est 19h11, vous avez décidé de passer votre samedi soir avec nous sur Cours d'honneur, pourquoi pas? Et Thomas a un mot à dire.
Un petit mot sur cette chanson qu'on vient d'écouter sur Cours d'honneur qui s'appelle L'Estaca, chantée par le chanteur catalan de Gérone Lluïsiac, qui est un hymne à la contestation. C'est une chanson qui raconte l'histoire. C'est une conversation entre grand-père Sisette, Avi Sisette, et le narrateur de la chanson, qui explique dans les paroles « Ne vois-tu pas le pieu auquel nous sommes tous attachés ? Si nous ne pouvons pas nous en défaire, nous ne pourrons jamais avancer. » Et il dit « Voilà, si je tire fort vers ici et que tu tires fort vers là, il est certain qu'il tombe, et que nous pourrons nous en libérer. » C'est une chanson de 1968 qui est héritière de la tradition.
Une chanson révolutionnaire, exactement pour toi, Thomas. Toi qui adore 68, la révolution.
Mais oui, ça
et tout ce qui va avec, c'est pour toi.
Et c'est la contestation contre. Alors, notamment, c'est un républicain convaincu, c'est un catalaniste fervent, et c'est une chanson qui est devenue, en tout cas, un hymne aujourd'hui qu'on entend sur beaucoup de manifestations en Catalogne.
Non, mais je comprends. Moi, j'ai toujours eu une âme de pirate, donc.
C'est vrai. T'as toujours été une grande aventurière, je le sais. D'ailleurs, parlons expédition.
Je crois que la poésie sont des rêves de bonne qualité.
Il n'y manque que ma petite touche perso.
C'est l'art de rêver et de faire rêver aussi.
Madeleine et Maëlys, vous n'êtes pas partis en expédition, mais vos interlocuteurs en ont parlé. Et c'est comme si on y était.
Audrey Guenegues, spécialisée en chimie marine, est partie aux îles Kerguelen avec 48 scientifiques de janvier à mars 2021 et cette année également. À bord de leur bateau, le Marion Dufresne, ils analysent, testent et explorent ces paysages atypiques et sauvages. Elle nous raconte son expédition.
Je suis partie en expédition, donc vous citez 2021, donc c'est l'expédition Swings où j'étais principalement sur le Marion Dufresne pendant 2 mois. Cette année, je suis partie avec 3 autres collègues, donc là on est resté 1 mois et demi sur la base scientifique des Kerguelen.
Les îles Kerguelen, c'est environ 2800 km de côte et l'intérêt scientifique est présent depuis sa découverte en 1772.
On travaille beaucoup aux îles Kerguelen parce que c'est une île française, voilà, perdue au milieu de l'océan austral. Et donc il y a un bateau français qui y va 4 fois par an, c'est le Marion Dufresne, pour ravitailler ces îles. Et en fait, elles sont très intéressantes pour nous parce que tout autour de Kerguelen, on a vraiment beaucoup de fer dans l'océan. Et à une journée de navigation, on retrouve des eaux qui sont limitées par le fer. Donc il n'y a pas de fer dans l'eau. Et donc ça nous permet de comparer les deux systèmes sur le terrain. C'est vraiment notre terrain de jeu, quoi, notre laboratoire naturel. Et donc souvent, on en profite qu'on soit en mission pour ramener de l'eau de mer, justement, pauvre en fer, et pour ensuite pouvoir continuer les expériences au laboratoire.
Les défis sont de taille. En effet, il s'agit de déterminer comment la fonte rapide du glacier sur l'île agit sur la biodiversité.
Autour de Kerguelen, il y a une biodiversité vraiment impressionnante avec tout ce qui est oiseaux marins, éléphants de mer, manchots, avec des colonies de plus de 100 000 individus. Parce qu'ils retrouvent énormément de nourriture, donc foisonnante dans l'océan, parce qu'il y a beaucoup de fer. Et il y a aussi une activité économique et la pêche, par exemple, à la légine.
La légine, c'est un poisson pêché parmi les 111 espèces que l'on trouve autour des îles Crozet et Kerguelen. Il y a, en plus de pêche commerciale et scientifique, des campagnes de pêche exploratoire.
Et donc, l'hypothèse scientifique, c'est est-ce que tout ce fer qu'on retrouve en Kerguelen, il vient de la fonte du glacier ? Parce que c'est un des plus grands glaciers français et qui fond le plus vite. Donc voilà, nous on cherche à savoir, est-ce que ce fer il vient de la fonte du glacier, sous quelle forme il arrive dans l'océan, et sous quelle forme le phytoplancton et les bactéries, elles préfèrent le consommer. On y va pendant l'été austral, donc on passe un mois et demi, deux mois sur place. Donc effectivement, on ne peut pas sillonner tout l'archipel.
Les expéditions sur les îles Kerguelen, c'est aussi un travail minutieux et conscient, nous explique Audrey, puisqu'il faut préserver sa faune et sa flore.
On est obligé de faire attention donc, à cette biosécurité, donc de vraiment de nettoyer tous nos vêtements avant de descendre, d'aspirer les poches, les velcros de sac à dos et tout ça, pour éviter d'apporter des graines et de perturber cet écosystème.
Nous, pour aller prélever l'eau des lacs, voilà, on part avec nos sacs à dos et on ramène l'eau dans nos sacs à dos, dans les cabanes, pour ensuite la filtrer. Donc c'est quand même physique et sportif.
Si on veut aller sur des points précis où il n'y a pas beaucoup de scientifiques qui y vont, ce que fait maintenant l'Institut Polaire, c'est de mettre une cabane en bois, donc déposée par l'hélicoptère, et de la récupérer à la fin de l'opération pour pas non plus polluer l'île et avoir 10 000 cabanes un peu partout. Ouais.
Elle nous explique aussi les difficultés et les beautés de l'expédition, avant tout une aventure humaine.
Personnellement, c'est vrai que moi je le vis bien. J'aime participer à ces missions, mais c'est sûr que c'est pas donné à tout le monde. Donc là, par exemple, on est parti à 4 scientifiques. On a passé 2 semaines en cabane, dans un milieu vraiment isolé. Donc il faut bien s'entendre avec ses collègues. Donc c'est du ressort aussi des chefs de mission, des chefs de programme, ceux qui organisent les missions, de réunir des gens, surtout en milieu isolé, qui vont avoir une bonne entente au quotidien. Donc voilà, tout ce monde vit ensemble en communauté. Donc maximum pendant un an. Nous, on y passe à peu près 2 mois au maximum. Mais c'est super.
Entre recherche et observation, les scientifiques sont aussi les témoins du monde qui change.
On est aux premières loges de ce qui se passe dans l'océan et c'est quand même assez inquiétant de se dire dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qui va se passer ?
Audrey ne partira plus travailler aux îles Kerguelen, mais son travail continue ici à Banyuls, dans son laboratoire. Avec la fonte du glacier sur l'île, les modélisateurs climatiques prévoient sa disparition d'ici 2100. Les recherches scientifiques continuent donc pour analyser les conséquences de la fonte rapide du glacier et du réchauffement progressif de l'eau de mer.
Attendez, on arrête tout là. Vincent et d'ailleurs tout le monde autour du plateau, on peut être étudiant à la Sorbonne et se barrer à l'autre bout du monde, sur les îles Kerguelen, récupérer des morceaux de glace.
Moi j'ai un ami là qui est actuellement en stage, qui va partir l'année prochaine sur un bateau militaire pour une mission qui s'appelle la mission Bougainville. Donc pour partir faire des prélèvements et des analyses.
Toi, tu es déjà allé, tu as eu la chance de le faire pour l'instant ?
Non, moi j'aurais peut-être pas cette chance là, en tout cas pas sur ce type de mission.
Ok, les autres qui allaient en cours à Porte de Clignancourt tous les jours de votre vie, vous en pensez quoi de ça ?
Le Porte de Clignancourt à Kerguelen, franchement moi ça m'irait bien. Non mais j'adorerais partir, mais je pense que tout le monde autour de la table adorerait partir en sorte de croisière, en bateau, pour faire des prélèvements dans l'océan.
Je crois que Thomas est pas très aventurier. Hein.
Faire des lettres.
Des croisières d'ailleurs.
Mais dans les lettres, ce serait écrire peut-être des poèmes, faire de la recherche.
Mais Erasmus.
Erasmus,
ça marche. Hein.
S'il y a un avantage à être journaliste, c'est pouvoir suivre les scientifiques dans leur mission et tout. Ça peut être quelque chose à faire.
Pour partir aussi un petit peu.
Non mais c'est vrai que c'est incroyable. Moi d'ailleurs, il y a un autre sujet incroyable que j'adore, c'est la symbiose marine.
Oula, c'est quoi ça ?
On prend la direction de la Sorbonne en personne.
Bon, j'avoue, c'est un sujet un peu obscur, mais Maëlys et Sora vont nous éclairer nos lanternes.
Sophie Sanchez-Brosso est la maîtresse de conférence à Sorbonne Université. Sa principale recherche se porte sur les symbioses, comme elle nous explique maintenant.
Donc moi, mon travail, essentiellement, c'est que ces cultures, ensuite, je les analyse au laboratoire.
J'essaie d'identifier le phytoplancton, donc les microalgues qu'on retrouve dans ces cultures, et aussi tout le cortège bactérien qui peut être associé dans la phycosphère, c'est-à-dire autour de ces algues.
Son but est de comprendre les variations environnementales et les perturbations ou pollutions qui peuvent affecter l'humanité.
Plus personnellement, ce serait mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes, en particulier l'écosystème marin et ces réseaux de chaînes alimentaires. En fait, le phytoplancton que j'étudie est vraiment à la base.
On peut remercier cette algue, ce phytoplancton, car c'est grâce à lui qu'il y a la diffusion de l'oxygène dans le monde. Le plaisir d'être à Banyuls, c'est pouvoir emmener ses élèves auprès de l'environnement.
Et vraiment, la chance qu'on a, c'est d'être au contact de la nature en fait, donc on peut directement aller observer in situ ce qu'ils ont lu au travers de leurs cours ou qu'ils ont appris et après pour tout ce qui est écologie aussi c'est la sensibilisation à la préservation des milieux. Ils s'en rendent très vite compte de toute façon quand on voit les perturbations qui peuvent arriver localement.
La Sorbonne pour elle c'est avant tout son employeur mais aussi le tremplin de la vie active car c'est grâce à cette institution qu'elle a pu avoir son poste à Banyuls. Elle aime le fait qu'un endroit dynamise la recherche scientifique.
Bon, donc Maëlys, t'as compris ce que c'était la symbiose marine au final ?
Alors, la seule chose que j'ai compris, c'était que le phytoplancton, c'est un algue qui permet la respiration des êtres humains.
Mais d'ailleurs, le phytoplancton, je crois qu'il l'étudie à Roscoff. Toi, Vincent, tu t'en as entendu parler de la station à Roscoff ? Tu y allais ?
Alors, la station à Roscoff, j'en ai entendu très souvent parler, donc par les étudiants et par les chercheurs qui sont là, mais non, pour le coup, j'y suis jamais allé.
C'est quoi la vision qu'on a de Roscoff ? Il y a une petite concurrence, en vrai, dis-le nous. Il y a une petite concurrence entre Banyuls et Roscoff ?
Ah, il y a une petite concurrence au niveau ambiance entre les étudiants, entre Roscoff et Banyuls, parce qu'on pense tous qu'à Banyuls, on a clairement la meilleure.
Je suis neutre. J'ai visité les deux, mais je suis neutre.
On a plus le soleil qu'eux, en tout cas, ça c'est
en vrai,
sûr.
En vrai, toutes celles qui sont allées à Roscoff, là, c'est quoi les parallèles que vous pourrez faire entre les deux ?
Premier parallèle, déjà les gens sont super gentils, ils ont tous essayé de nous expliquer de manière compréhensible pour des gens qui sont pas du tout scientifiques.
On était bien accueillis par tous les intervenants, que ce soit à Banyuls ou à Roscoff.
Franchement, dans les deux cas, c'était génial. Après, c'est vrai que nous, on n'a pas vraiment eu le soleil ce week-end, donc est-ce qu'on a vraiment pu voir tous les avantages de Banyuls ? Je sais pas.
Je crois que ton idée en Vincent, excuse-moi.
On a clairement un plus beau paysage, je trouve, qu'à Roscoff. On va pas se mentir.
Je suis neutre, toujours.
Roscoff a son charme, c'est vrai que là, on a des montagnes et tout.
C'est vrai qu'il y a les Pyrénées qui se jettent dans la Méditerranée, mais moi, les parallèles que je pourrais faire, donc il faut rappeler à nos auditeurs qui écouteraient cet épisode qu'il y a deux mois, nous sommes partis à Roscoff réaliser le premier épisode de cette série d'émissions spéciales que nous réalisons dans les sites océanologiques de Sorbonne Université. Et surtout, c'est que c'est le même type de bâtiment quand on marche dans les couloirs du bâtiment historique, du site historique de l'Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer, c'est les mêmes murs, les mêmes couleurs, un peu les mêmes décors, un peu cette même ambiance, puisque les deux ont été fondés à la fin du 19e siècle par Henri de Lacasse-Dutier. Ça te dit quelque chose ce nom,
tout
Vincent ?
Tout à fait, oui.
À quelle occasion tu l'as découvert, rencontré ?
Quand on nous présente le bâtiment, le côté historique un peu de l'observatoire, on a forcément ce personnage qui vient dans la conversation. Mais à part ça, non, j'ai pas eu plus d'écho de.
Puis il y a ces photos partout en vrai aussi. Dans l'observatoire.
Henri de Lacasse-Dutier qui avait fondé donc les trois sites d'observation marine que sont Roscoff, Banyuls-sur-Mer et Villeneuve. Et est-ce que c'est important, on a entendu un de nos interlocuteurs dans un reportage qui parlait de tradition historique depuis 1882, d'avoir des étudiants qui viennent ici à Banyuls. Est-ce que ça se ressent, je veux dire, est-ce qu'on ressent la trace de la Sorbonne quand on est étudiant à Banyuls ?
Alors, la trace de la Sorbonne, je sais pas trop. En tout cas, une conservation de ce genre de tradition, je pense que oui, parce que par exemple, il y a un hébergement qui est vraiment dédié à l'avenue de stagiaires et des étudiants de Sorbonne. Et donc, on sent qu'ils ont quand même l'envie de continuer ce genre d'expérience, de faire venir des jeunes, de continuer à faire découvrir la science, la biomarine de ce côté-là.
Ça veut dire que c'est vraiment taillé sur mesure pour accueillir depuis 1882 ?
Alors, depuis 1882, non, parce que là, l'hébergement où les étudiants logent il a 11 ans, ce bâtiment. Donc,
On y dort mieux que si ça datait de 1882.
Clairement mieux.
Non, mais je veux dire, tout le dispositif, on va dire, général, est taillé pour accueillir des étudiants dans de bonnes conditions et leur permettre justement d'avancer dans la recherche. C'est ça aussi, l'esprit de la Sorbonne.
Oui, que ce soit les aquariums, les paillasses, il y a toujours eu ce genre, ce côté ludique et de transmission, justement.
Après, si je peux ajouter, en différence et parallèle, nous, ce que nous expliquait Raphaël Lamy, c'est qu'en fait, ici, à Banyuls, on a surtout des étudiants qui viennent pour des séjours de 2 à 6 semaines, tandis qu'à Roscoff, on a en fait des étudiants qui viennent faire leur licence là-bas et qui étudient parfois plusieurs années. Donc je pense que ça pourrait être une des plus grandes différences.
Ouais, à Roscoff, la moyenne, enfin, d'un point de vue des étudiants, ils étaient beaucoup plus jeunes. Nous, on a rencontré des L1, notamment la carte postale, vous pouvez aller la voir. Et mais non, c'est vrai que, enfin, nous, en tout cas, on a l'impression qu'il y avait plus d'étudiants, plus d'émulation à ce niveau-là. Mais on vous croit si vous nous dites que c'est à Banyuls qu'il faut être.
Oui, Maïs.
En plus de ça, la femme avec qui on vient d'entendre l'interview, elle nous a raconté qu'il y avait déjà une dizaine d'étudiants à l'étranger qui venaient ici et non à Roscoff. Du moins, ils revenaient toujours ici. Je pense que c'est compréhensible.
Comme quoi.
Et par exemple, il y en a 2 qui viennent de Chicago actuellement et 1 d'Asie.
C'est un point.
Alors, je veux pas mettre les stations en compétition, mais il me semble que le fondateur a choisi d'être enterré ici, à Banyuls. Sa tombe.
On a vu la tombe à Roscoff, je crois, c'est ça ?
Ouais, et il est même.
Alors, on nous a montré une statue qui n'était du coup sûrement pas celle du fondateur. Je ferai mieux mes recherches. Ah,
Il a été enterré 2 fois.
Non, mais il avait dit oui, que c'était bon pour ses rhumatismes, je crois. Que du coup, il voulait être ici dans le sud pour le chaud et que c'était bon pour ses rhumatismes ou pour les os.
Mais il n'a pas voulu faire de jaloux. Une tombe ici et une tombe là-bas, on ne sait pas où est le corps.
Mais après, peut-être que Lilou, tu pourras m'expliquer, et peut-être que je confonds entre le fondateur et l'ancien directeur de Roscoff qui a été enterré.
Ah,
c'est l'ancien directeur qui a été enterré.
C'est l'ancien directeur. Tu te rappelles de cette anecdote ?
Mais à culpa.
Raison. Non, c'est toi qui avais raison.
Ah, ok. Comme et à culpa.
La directrice de Roscoff nous avait expliqué à Lilou pendant l'interview qu'il était enterré à mi-chemin entre le cimetière et il y avait le sommet de son corps qui était enterré dans l'enceinte de Roscoff, je crois.
Ça correspondait genre dans un des murs. De l'enseigne.
Donc effectivement, mea culpa, c'est peut-être plutôt le fondateur qui est bien enterré à Banyuls.
Et qui a préféré Banyuls, qui a d'ailleurs une très belle tombe.
Mais si en tout cas, petit avant-goût, avec Pascal Conan qu'on a fait avec Sora l'interview, il dit justement les différences qu'il y a entre ces deux.
Nous y venons parce que maintenant, faut mettre un peu de sérieux dans cette émission, on va parler du boss.
Ouh là là, j'ai peur.
Mais non, Lodine, tu verras, il est comme ça.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Victoire et Madeleine ont rencontré le président de l'observatoire.
Yves Desdevises, vous êtes directeur de l'observatoire océanologique de Banyuls. Vous vous intéressez particulièrement aux interactions marines.
Tout à fait.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, donc l'acidité de plus en plus élevée de la mer Méditerranée perturbe déjà le développement du plancton. C'est des chercheurs espagnols qui ont mis ça en évidence. Et donc l'augmentation de l'acidité provient de la formation d'acide carbonique produit par la dissolution de l'eau, du gaz carbonique de l'air, plus du quart du CO2 libéré par la combustion des carburants fossiles, est absorbé chaque année par les océans. L'observatoire a-t-il également mené des recherches sur l'acidification du plancton et de la mer Méditerranée? Et plus généralement, quelles conséquences aura-t-elle sur la mer et sur la biodiversité, selon vous ?
Alors oui, il y a des gens qui travaillent là-dessus à l'Observatoire. Il y a toute une unité de recherche qui effectue des recherches en biogéochimie marine. Et en fait, c'est le devenir des éléments chimiques dans l'océan, et en particulier ceux qui sont véhiculés par les êtres vivants, donc la boucle microbienne, le plancton, les bactéries, etc. Et c'est vrai qu'une des conséquences aussi de l'absorption du CO2 par les océans, c'est la modification d'équilibre chimique et notamment de la transformation du carbone en calcaire. L'acidification change ça et ça perturbe fortement la calcification d'organismes marins qui font des petites coquilles, etc. D'accord. Donc si on perturbe ça, on perturbe pas mal de choses aussi dans le vivant. Voilà.
Est-ce que vous avez mis en place des campagnes justement pour sensibiliser les personnes à ce changement qu'on observe aujourd'hui dans la mer et
Alors,
les océans ?
Nous, on a un centre ici de médiation scientifique. On a un aquarium depuis 1885 qui a évolué petit à petit, qu'on a complètement refait dans un nouveau bâtiment fin 2017 et qui est en fait un centre de médiation scientifique plus qu'un aquarium. Et là, il y a pas mal d'actions de sensibilisation envers le public, envers les scolaires, beaucoup. Et là, on parle de toutes sortes de sujets. Maintenant, beaucoup de sujets qui ont trait aux atteintes anthropiques à la Méditerranée. Donc, on parle du microplastique, par exemple, beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de travaux qui sont menés ici. Mais également, effectivement, du réchauffement climatique, des conséquences que ça a sur l'océan, etc. Donc ça, on en parle sur place, j'allais dire, puisque c'est un des services de l'Observatoire d'avoir ce centre de médiation scientifique, donc qui s'appelle le Biodiversarium, qui est en deux parties. D'ailleurs, il y a une partie, la principale, qui est l'aquarium, où là, on a ces locaux pour faire cette médiation. Et on a sur les hauteurs de Banyuls, il faut savoir que la station a ceci d'original, d'avoir une partie terrestre. Je ne sais pas s'il y a d'autres stations marines comme ça, avec tout un jardin étagé qui maintenant se visite et fait partie du biodiversarium. Donc il y a une partie marine, c'est 90%. Donc souvent quand on dit le biodiversarium, c'est pour dire l'aquarium, mais en fait l'aquarium n'en est qu'une partie. Alors ça se passe sur place. Maintenant, il arrive qu'on intervienne à l'extérieur. Alors ça peut être sur le campus parisien pour la fête de la science, donc ça c'est assez classique, ou d'autres événements, c'est arrivé, mais aussi dans la région. Puisqu'on a des médiateurs scientifiques, alors ça arrive aussi que les chercheurs de l'observatoire fassent des conférences, et ça, ce sont des actions de sensibilisation, et il arrive souvent, bien sûr, que ce soit sur des thématiques liées au changement climatique. Donc oui, on en fait ici, on en fait à l'extérieur, avec nos médiateurs, et les chercheurs aussi le font régulièrement.
Et est-ce qu'il y a des associations étudiantes qui se chargent aussi de ça ?
Sur place ?
Oui, sur place.
Alors, on n'a pas vraiment d'associations étudiantes sur place. Il faut dire que les étudiants sur place, c'est essentiellement des doctorants.
Oui.
On a bien sûr des étudiants de tous les niveaux. Alors, beaucoup de masters qui viennent, qui sont là ou étaient là il y a encore peu de temps. Ça s'arrête fin avril, en général, pour la première partie de l'année. Et puis, donc ça, c'est pour les M1 qui viennent au second semestre. Et puis, on a aussi beaucoup d'étudiants qui viennent en M2, donc au premier semestre et en stage, évidemment. Mais ça, ils viennent, ils repartent.
Oui, c'est mobile.
On a aussi des licences, j'allais dire, de plus en plus. Alors, je ne sais pas si on en aura plus que ce qu'on a maintenant, mais on a 3-4 UE de licences, je dirais, actuellement sur place. À un moment, on en avait zéro. C'est les stations marines. Enfin, on commence à se spécialiser, en général, plutôt au master. Donc, les licences, on voyait quasiment pas d'étudiants dans les stations marines. Maintenant, ça a bien changé dans les trois stations, et notamment ici. Mais c'est pareil, ces étudiants, ils viennent 15 jours, 3 semaines. Donc, on n'a pas un pool d'étudiants sur place, à part évidemment les doctorants, qui sont une vingtaine à peu près ici. Mais les doctorants, tous les ans, il y a une partie qui arrive, une partie qui part. Et c'est vrai que ce n'est pas très évident d'avoir une association. C'est parfois des choses qu'on essaye de pousser. Mais c'est pas très facile, donc on n'a pas d'association étudiante permanente sur place.
Et justement, en parlant des étudiants, quels seraient les intérêts qu'un étudiant de Paris, par exemple, aurait à descendre ici à Banyuls pour faire ses études, un doctorat ?
Alors, les étudiants qui sont dans des cursus où il y a des sciences marines passent nécessairement dans les stations. Donc ceux qui font sciences de la mer, donc sciences de la mer c'est vraiment océanographie biologique, passent une bonne partie de leur master dans les stations, et comme je disais tout à l'heure, il y a de plus en plus d'étudiants en licence, enfin en tout cas on en a plus qu'on n'en a jamais eu, et donc des étudiants dès la L2, L3, là je ne crois pas, vont venir en station pour quelques UE. Mais pour ceux de master dans les sciences marines, ils viennent nécessairement dans les stations. Alors, qu'est-ce que ça change par rapport à être à Paris, de venir en station ? Alors, c'est vrai que c'est... je pense que c'est une bonne expérience pour tout le monde. D'abord, il y a une proximité... il y a des enseignements qui sont très concrets en sciences marines, où il y a beaucoup de pratiques. Si on vient ici, c'est beaucoup pour faire de la pratique. Il y a peu de cours, j'allais dire magistraux, s'il y en a un petit peu. Alors, de plus en plus, c'est vrai qu'on est sur des enseignements hybrides. Parfois, on essaye de faire en sorte qu'en station, on ne fasse que les parties où il y a des interactions, les parties pratiques, etc. Donc il y a cette proximité immédiate avec ce qu'on étudie, on a la mer, on la voit par la fenêtre, et puis on fait bien plus que la voir par la fenêtre, puisque les étudiants sont souvent en sortie, vont collecter eux-mêmes, vont faire des sorties bateaux, donc je pense que tout ça c'est déjà très attractif et intéressant. Il y a une proximité des enseignants aussi, qui est beaucoup plus que sur le campus, parce qu'en gros ils nous voient tout le temps, et les étudiants on les a 24 heures sur 24, ils sont hébergés dans les locaux de la station, on a un centre d'hébergement, donc il y a une proximité des enseignants, des chercheurs aussi, des laboratoires de recherche, où parfois une partie des démonstrations pratiques peut se faire. Donc ça, je pense que cette grande proximité, elle est vraiment intéressante pour les étudiants, et j'allais dire, c'est pas comme à Paris où les étudiants, bah, à 5h, ils disparaissent, puis ils reviennent éventuellement le lendemain. Là, ils sont un peu tout le temps dans la station, tout le temps dans la ville. Donc ils peuvent plus facilement aussi travailler, alors pas que travailler je pense, mais ensemble le soir. Enfin ça a une, il y a vraiment une proximité entre eux, avec les enseignants et avec le terrain, le matériel qu'ils étudient, qui est beaucoup plus importante. Et puis c'est vrai que c'est des petits groupes, c'est un environnement qui est quand même très agréable. Les étudiants qui viennent ici en stage, enfin en enseignement, ont rarement l'air malheureux. Ça se passe quand même plutôt très bien, et je le dis d'autant plus que moi-même, comme beaucoup de mes collègues, on a vécu ça. On est tous, à un moment, à partir du second cycle, on s'est retrouvés dans les stations marines, et on a plutôt un bon souvenir.
Et donc, un de votre domaine principal est la génomique évolutive et environnementale du phytoplancton.
Voilà, nous, on est des étudiantes... Je faisais ça il y a encore quelques années, maintenant plus, mais effectivement, il y a eu ça. Ouais.
Mais donc, ça nous intéresse parce qu'on est des étudiantes en lettres, on a un peu du mal avec ce vocabulaire scientifique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, si c'est possible, en quelques mots, en quoi ça consiste?
Alors, cette équipe existe toujours, hein, j'en faisais partie jusqu'à il y a 5-6 ans. C'est une équipe qui travaille sur des microalgues. Donc ça veut dire des petites algues unicellulaires qui forment donc le phytoplancton. En particulier, cette équipe aussi travaille sur une microalgue qui est le plus petit organisme eucaryote connu, libre. C'est-à-dire c'est une cellule eucaryote avec un noyau, hein, comme les nôtres, sauf qu'ils n'ont qu'une cellule, c'est unicellulaire, mais de la taille d'une bactérie. Et donc cette équipe travaille sur les génomes. On sait maintenant assez facilement séquencer des génomes et va travailler sur la variabilité des génomes qu'on peut trouver dans les différentes espèces, souches de ces microalgues, de comment ces génomes évoluent. Ils font beaucoup d'évolution expérimentale aussi, pour calculer les taux de mutation, à quelle vitesse ça évolue, comment ça peut s'adapter à différents environnements. Et puis une particularité aussi de cette équipe, et ce que j'avais moi plus en charge à l'époque, puisque vous l'avez dit, je m'intéresse aux interactions marines, ces interactions entre ces microalgues et des virus spécifiques. Virus qui vont avoir aussi un rôle dans leur évolution, qui vont avoir des spécificités différentes, je m'intéressais pas mal à la coévolution entre ces microalgues et les virus, c'est-à-dire est-ce qu'ils évoluent de concert ou pas, comment l'un influence l'autre. Et puis on se rend compte que ces virus ont un rôle important dans la régulation de ces microalgues, qui elles-mêmes ont un rôle important dans le piégeage du carbone. Donc les virus peuvent avoir un rôle sur le climat, en fait, indirect, par le rôle qu'ils ont dans la chaîne alimentaire. On s'intéressait pas mal à ces phénomènes-là. Mais avec un aspect, et en particulier pour l'équipe telle qu'elle est actuellement, dont je ne fais plus partie, mais vraiment les aspects génomiques sont très importants, et ils ont beaucoup, beaucoup de génomes maintenant à disposition, ce qui fait un modèle assez exceptionnel, où on a plein de génomes proches d'un groupe de microalgues particulier et très intéressant écologiquement.
Et pour finir, la question qu'on pose à tous nos invités, que représente la Sorbonne pour vous ?
Donc la Sorbonne, alors Sorbonne Université, parce qu'il y a au moins 4 universités qui s'appellent Sorbonne. Moi, quand quelqu'un me dit « je suis prof à la Sorbonne », je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais bon, bien sûr, Sorbonne Université, c'est la plus grande, c'est la mieux, c'est la plus prestigieuse, puis on est complètement objectif sur la question. Alors, c'est une université qui est très importante, qui est même maintenant multidisciplinaire. J'allais dire, ça respecte vraiment ce vocable d'université avec un savoir un peu universel. Moi, je suis arrivé à ce qui était l'UPMC à l'époque en 2001, où là c'était vraiment science et médecine, et on voyait surtout la science, nous. Donc c'est vrai qu'avoir maintenant cette ouverture ajoute encore un intérêt à ce qui est devenu université, donc Sorbonne Université. Donc c'est vrai que nos stations marines fonctionnent bien, Banyuls, Roscoff, Villefranche, grâce aussi au fait qu'on est Sorbonne Université. Donc on est ce grand établissement qui a, j'allais dire, les épaules larges, qui est puissant et puis qui peut nous permettre de bien fonctionner. Le dit d'autant plus facilement qu'on voit d'autres stations marines, hein, il y en a quand même un certain nombre en France. C'est pas toujours aussi facile pour les autres, parce qu'une station marine, c'est des investissements, il faut pouvoir assumer ça, et Sorbonne peut le faire. Il faut savoir que Sorbonne Université est une université très importante, la plus importante en France en sciences marines, même s'il y a d'autres universités qui sont importantes. Et ça, c'est quelque chose pour nous qui est très précieux. Donc on est heureux de faire partie de Sorbonne Université.
Merci beaucoup Yves Dédévis de nous avoir accueillis aujourd'hui ici.
Merci à vous.
Merci beaucoup de nous avoir accordé cette super interview. Je vous sens très bavarde ce soir. Alors j'ai l'impression que vous avez envie de parler d'un sujet. D'ailleurs, on n'a entendu que Vincent sur ce sujet, mais on ne vous a pas entendu. L'esprit de la Sorbonne dans cette petite station balnéaire à l'autre bout du monde, vous le ressentez, vous ?
Moi, j'ai surtout ressenti quand on a visité la bibliothèque. On a eu la chance d'avoir un petit tour fait par la bibliothécaire. Et du coup, oui, c'est hyper organisé. Il y a un travail d'archivage énorme. Plein d'objets aussi qui sont stockés, qui sont... Et donc, c'est là que j'ai senti, plutôt. Parce que sinon, ça n'a rien à voir avec la... Enfin, au niveau, en tout cas, du lieu, de... Il y a très peu d'étudiants, donc on voit pas trop et tout ça. C'est vrai que là, on le sent pas trop. Mais dans la bibliothèque, oui. Les chercheurs, oui. Voilà.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Enfin, on retrouve la Sorbonne au tout début quand on arrive et qu'il y a marqué en énorme Sorbonne Université... Sciences Sorbonne Université, mais et maintenant peut-être dans l'exigence que les gens ont pour le savoir, mais
l'exigence du savoir de l'humanité, je crois que c'est ça la formule.
Exactement, merci Thomas.
Et le Crous aussi.
Ouais,
incroyable.
Après, le Crous,
ils avaient un serveur, ils avaient un serveur pour le Crous. Ça, c'est, on a été servi à table quoi.
Leur Crous c'était incroyable. Ouais.
Oui, Vincent Le Crous. Ouais, non. Tu le fréquentes ?
Alors, je le fréquente tous les matins, tous les midis, tous les soirs. C'est pas vraiment un Crous, parce qu'en fait, c'est un restaurant qui est c'est un restaurant privé qui accueille en fait les gens du laboratoire, les étudiants et tout ça. Mais il y a quand même une connexion avec le Crous, c'est-à-dire que le repas à 1 euro, les trucs comme ça, on l'a aussi dans ce restaurant. Donc c'est un mix entre restaurant et Crous. Il est incroyable.
Vous avez pas les points pour le coup, alors que nous on a le système de. Non mais c'est vrai, c'est important. On parle du Crous, on parle des aides. Nous on a un système.
On voulait parler de savoir et de recherche, mais il y a que le Crous qui intéresse les gens ici.
Non mais j'ai juré, au Crous c'est le seul moment où je fais des calculs et tout. C'est pour mes points et après c'est tout. Quoi.
C'était mes 1 euro les plus rentables de ma vie.
Ah vraiment vraiment. Est-ce que vous avez un amphi à l'observatoire ou pas ?
Alors il y a un amphi, oui, j'ai plus son nom, mais il y a un amphithéâtre où il y a des conférences, où des fois on fait des petites réunions entre équipes.
En face de la bibliothèque.
Ouais, juste en face de la bibliothèque. Okay. Et du bureau des étudiants accessoirement. Ouais.
Et moi j'ai remarqué parce qu'à un moment je suis partie chercher de l'eau et j'ai rencontré un monsieur d'Amérique du Sud, enfin un monsieur, il avait 23 ans.
Oui, d'accord.
Donc pas un monsieur tant que ça. Voilà, un jeune. Et c'est fou parce que j'ai rencontré une femme aussi, pareil, qui était pas du tout française, qui était espagnole. Et ça m'a rappelé à quel point il y avait énormément d'étudiants étrangers à Sorbonne Université et à quel point c'est sublime de pouvoir parler avec toutes les nationalités et qu'on ait aussi, nous aussi, la possibilité de partir à l'étranger, de préparer nos dossiers pour partir. Et ça, c'est vraiment sublime. Et c'est dans toutes les universités, mais à Sorbonne Université, on peut aller dans de grandes écoles internationales. Et ça, c'est magnifique.
Si ça, c'est pas une pub pour l'Erasmus de la Sorbonne Université.
Allez à Erasmus, envoyez vos dossiers. Ça prend un an pour envoyer vos dossiers. J'ai mon école pour l'année prochaine.
Où est-ce que tu vas ?
Columbia, New York.
Allez.
Oh,
pas
mal. Ah oui.
On applaudit. Est-ce que vous, ça vous a fait bizarre, genre d'arriver dans une station où vous pourriez être en vacances et de voir le gros Sorbonne Université, genre au fond de plage ?
On a pris une photo directe, trop bizarre.
Le trauma sur
avec les palmiers devant quoi.
Non mais les palmiers, les mâts de bateau, la mer, non, pas la Sorbonne. Non.
Et pourtant.
Bon les gars, avec Abel, on a eu aussi une super idée, bon peut-être un peu moins sublime que ce dont Maëlys nous a parlé, mais on s'est dit qu'on voulait ajouter une nouvelle rubrique astrologie dans Cours d'honneur. Voilà, une super musique sur l'astrologie conseillée par Lilou, notre astrologue en chef. Parce que vous savez, ce week-end, Thomas, il n'a pas arrêté de nous bassiner avec ça. C'est un grand fan de l'astrologie. Il est passionné, lui qui est taureau, il n'arrête pas de nous en parler. Tous les matins, il lisait le journal. Donc c'est pour ça, on a voulu faire
tout, il allait acheter exprès la PQR pour lire l'horoscope. Et s'il avait un mauvais horoscope, alors là, c'était foutu pour la journée, vous avez la gueule.
Là, on passait une très mauvaise journée.
Véridique, quand il nous a amené au train, il nous a amené le Parisien. C'était pas pour avoir les infos, c'est parce qu'il a dit derrière l'horoscope.
D'ailleurs, très bon horoscope, le Parisien, on recommande.
Oui.
Bah, ils avaient pris le
il a dit un peu mieux que l'indépendant, si je puis me permettre. Parce que
c'est
l'indépendant. Mais
indépendant, oui.
Prenez du repos, point.
Faites du sport aussi.
Et tu sais, Abel, il faut que je te dise, ça c'était pas dans les conseils astrologiques, mais moi je te le dis, t'es un super animateur. Mais en plus, tu fais des super reportages.
Gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention.
Tout de suite, tu nous parles de médiation scientifique.
Je me retrouve dans une salle de cours avec Pierre Parmentier, médiateur scientifique au sein du Biodiversarium de Sorbonne Université.
Qui est une structure de médiation scientifique de la Sorbonne Université à Bagnols-sur-Mer.
Il m'explique comment la médiation culturelle marche dans un lieu de recherche universitaire.
Alors la médiation scientifique, c'est-à-dire qu'on va avoir des groupes de scolaires par exemple qui vont venir, avec lesquels on va faire des ateliers, des visites guidées. Et sinon on est aussi en relation avec le grand public, donc qui va venir notamment tous les jours et surtout pendant les périodes de vacances scolaires. Et là on va avoir des animations assez particulières où on présente encore une fois ce qu'on fait à l'Observatoire.
En réalité, elle se fait surtout en ouvrant les portes au public.
En fait, c'est un aquarium ouvert au public, donc ça c'était la volonté, ça fait quasiment 140 ans que c'est comme ça. Il y avait un aquarium qui se trouvait au premier étage du laboratoire quand il a été conçu, donc en 1882. Vous aviez du public qui rentrait, qui côtoyait peut-être les plus grands scientifiques, en tout cas naturalistes de l'époque, qui étaient sur des bassins. Et on a gardé un petit peu cette idée-là, donc ce qui veut dire que les gens effectivement peuvent rentrer toujours dans l'aquarium, puis découvrir l'histoire du laboratoire, les différentes équipes qui travaillent dedans, les recherches.
C'est aussi un espace de démonstration au travers de plusieurs bassins aquatiques.
Oui, c'est un bassin de découverte. On va avoir aussi des concombres de mer, des étoiles de mer là-dedans, les ophiures qui sont les cousines des étoiles de mer, des petites anémones. En fait, déjà, ça attire l'œil parce que on n'a pas de grandes choses qui soient dedans, donc il y a plein de petites choses sur lesquelles on peut se concentrer et ça nous permet de raconter des petites anecdotes, des petites caractéristiques de chaque ou chaque espèce.
Dont un grand bassin qui sert pour les démonstrations en public.
C'est le bassin sur lequel on fait un nourrissage. En fait, l'espace est assez grand, ce qui nous permet du coup de faire asseoir les gens, de pouvoir leur montrer et de faire un nourrissage commenté sur tous ces animaux qu'on va avoir. Et donc, lors du nourrissage qu'on va pouvoir effectuer pour le coup deux fois par jour, que ce soit le week-end ou pendant les vacances scolaires, on va présenter toutes les particularités, que ce soit du milieu et des animaux qui le peuplent. Le but, c'est de présenter un écosystème dans son ensemble.
Vous l'aurez compris, c'est un lieu de recherche qui porte une grande importance à la médiation en lien avec le public.
J'ai fait ce reportage, il était excellent, je le sais, merci, pas la peine de le dire. Non, pour de vrai, j'ai visité les... Est-ce que vous avez vu, parce que j'en parle dans le reportage, si vous aviez écouté, il y a une étoile de mer dont a parlé aussi Lilou qui fait vraiment genre... Vincent, c'est quoi cette étoile de mer qui fait la taille, qui est vraiment beaucoup trop grosse. Explique-nous.
T'expliquer quoi
tu la connais cette étoile de mer?
Alors, j'ai déjà vu, mais c'est quoi? C'est la raison de sa taille?
Si t'as quelque chose à nous dire, parce qu'elle est impressionnante. Moi, elle m'a fait peur personnellement la première fois que j'ai vu.
L'étoile de mer t'a fait peur?
Elle est énorme.
Elle a des trucs.
Le mec m'a dit, enfin le monsieur à qui j'ai parlé m'a dit, c'est une étoile de mer à épines.
C'est pas plus terrifiant qu'un oursin ou qu'une méduse peut-être, mais en plus c'est hyper pacifique. L'étoile de mer, ça peut faire peur parce qu'elle mange en sortant ses intestins. Ça je sais pas si tu le savais, donc une étoile de mer de 60 cm qui sort ses intestins.
Donc qu'elle fait, c'est... Ouais. Franchement, non mais sinon les aquariums où on pouvait voir des petits œufs de raie et des petits oursins, mais il n'y avait pas d'oursins, j'étais déçu parce qu'à Roscoff il y avait plein de petits oursins, je sais pas si vous vous rappelez. Oui. Et là dans ces petits aquariums il n'y avait pas d'oursins.
Avec lesquels on a 70% en commun, je crois, de gènes.
Oui. Les oursins ont 70% d'ADN commun avec les humains.
Ouais, mais pour la défense de Bagnols, à l'animalerie, on a vu des poissons clowns et des roussettes.
Tu as vu Nemo, tu voulais dire.
Ouais, mais, enfin, son père, tout à fait. Plein de Nemo, c'était génial. Monde, hein.
Il y a des étagères de Nemo.
Ouais, ouf.
Et alors
C'était super sympathique, j'ai grave aimé. Mais quand tu t'approches d'eux, ils coagulent ensemble parce qu'ils ont l'impression qu'on va les nourrir. Et du coup, ils se mettent tous au bord du truc et ils sont tous ensemble collés. Et donc voilà. Alors que tu les nourris pas, mais c'est mignon.
Et vous avez vu les grands tubes de toutes les couleurs dans lesquels ils gardent les micro-algues
Nous, on n'a pas du tout vu de micro-algues avec Madeleine.
Non, non.
Mais il y a bien ça, on est d'accord.
Ouais, il y a des grosses cuves de 200 litres, je crois, qui servent uniquement à la culture, justement, des proies vivantes pour nourrir les espèces de l'aquarium, mais aussi les espèces qu'on utilise en recherche. Ouais.
Je dis ça parce qu'il y avait les mêmes à Roscoff, c'était pour faire un petit lien, mais apparemment,
oui,
vous n'avez pas
c'est
voulu
vrai.
Attraper au passage, désolé.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est vrai.
C'était un super reportage de Mélie et moi-même.
Et on n'a pas tous eu la chance d'aller à l'aquarium, donc
c'est cool de demain,
on y retourne demain.
Demain, on fait une grande visite générale à l'aquarium, sachez-le. Donc,
Oui, et puis demain, vous pourrez voir aussi les scientifiques qui travaillent derrière, parce que dans cet aquarium, un dimanche, il y en a, oui, qui travaillent dans la partie d'aquarium de recherche et que vous pouvez voir, parce que du coup, il y a une vitre qui permet de voir les salles de TP, les salles de manip.
Il y a une grande baie vitrée qui montre les...
Donc les scientifiques sont aussi des espèces exposées dans cet aquarium.
C'est ça,
banco.
Vous devenez en zoo.
Et oui, ils sont fous, ils travaillent même le week-end comme nous, hein, finalement. Et oui, on est un peu crazy, surtout toi.
Je sais, on est un peu tous fous dans cette MIFA, comme on peut dire.
Mais pour essayer de redevenir un peu sain d'esprit.
Tout de suite, c'est Normal de Johnny Jane. Sur Cours d'honneur, toujours en direct sur Twitch, toujours la meilleure émission du monde, et c'était Normal de Jolene Jane, et ça c'était super. Lodine, on retourne dans le sérieux là, parce que on parle encore d'un boss.
Oh non, pas encore. Yeah,
nigga. I'm still fucking with you. Magnifique. Vous faites du sport?
Même pas.
Super.
Disons que j'ai un bon pédigré.
Sora, t'as rencontré pas le boss évidemment, mais le responsable du boss, et on écoute ça tout de suite.
Dans le laboratoire de Pascal Conan, les fenêtres donnent vue sur la Méditerranée. On y aperçoit une bouée jaune. Il s'agit en fait d'une sonde en activité continue depuis 1992. Elle permet aux spécialistes de récolter des données sur les paramètres de l'eau et les matières présentes dans celle-ci pour les analyser et y observer les changements. Ils sont d'ailleurs de plus en plus importants en raison du changement climatique.
Personnellement, je suis effectivement très inquiet de l'évolution que je peux noter et qui s'accélère de plus en plus. Hein. On est justement en train de faire le bilan bilan des 10-15 années d'observation et on s'aperçoit effectivement que depuis même 2020, il y a tellement de grosses variations qu'on se demande, même si parfois ça ne vient pas seulement d'une dérive de capteur ou de choses comme ça, si la variation elle peut s'expliquer par une erreur de mesure, c'est pas le cas. Donc on voit une augmentation de la salinité de façon très importante dans la baie de Banyuls, qui se confirme aussi sur les autres stations. Donc effectivement c'est très inquiétant, on ne peut pour le moment que constater, essayer de proposer des solutions.
Ces changements drastiques sont donc inquiétants pour les spécialistes qui parviennent à peine à croire ces chiffres. Mais plus concrètement, comment ce réchauffement des eaux affecte-t-il l'espace marin et la biodiversité en Méditerranée ? Pascal Conan nous l'explique.
La modification des conditions environnementales de la Méditerranée modifie forcément les espèces qui peuvent se développer. Elle devient favorable à des espèces tropicales, par exemple. On sait très bien que les espèces tropicales sont des espèces très agressives d'un point de vue biologique. Elles ont l'habitude de combattre d'autres organismes biologiques, donc elles prennent leur place par rapport à des organismes qui, eux, ont des capacités de résister plus facilement à des conditions environnementales, des températures froides ou des choses comme ça. Ça, c'est les impacts directs que l'on peut voir sur la faune et la flore. Et il y a aussi des impacts indirects parce que, en modifiant les températures, on modifie aussi la circulation, les masses d'eau en présence. Donc on a des effets directs du réchauffement sur les espèces qui peuvent se développer et qui sont en présence, et des effets indirects parce qu'on modifie les conditions de vie de ces espèces également.
Une fois opérés, ces changements climatiques sont irréversibles. Mais selon notre spécialiste, il est encore possible de limiter les dégâts. C'est l'un des objectifs du centre d'observation BOSS qui, en plus de son travail d'observation et d'analyse, tente de trouver des solutions.
L'objectif, c'est évidemment de suivre et de comprendre l'évolution de ces écosystèmes et ensuite de proposer éventuellement des solutions. C'est aussi notre rôle d'alerter les jeunes générations. Et le CM1, CM2, dès les primaires, on essaie d'aller montrer ce qu'est l'environnement et comment est-ce que l'on peut agir à petite échelle.
C'est donc par la transmission des connaissances et la sensibilisation du jeune public que Pascal Conan et ses collègues espèrent pouvoir contribuer à un meilleur avenir pour la biodiversité marine. Il explique que nous avons tous un impact, notamment sur la pollution plastique, l'une de ses grandes préoccupations.
J'ai la chance de voyager beaucoup, d'aller dans des coins de la planète très retirés. Et quand on est sur une île où on est à plus de 10 jours de n'importe quelle voie navigable, de n'importe quel bateau, et que l'on peut trouver des casques de chantier, des bouts de filet sur une plage en lisière, c'est quelque chose de dramatique sur lequel on peut avoir une action en essayant de faire comprendre qu'il faut vraiment lutter tous les jours pour limiter cette pollution et puis essayer de travailler sur ce réchauffement.
Il est certes important d'alerter le public sur ces risques environnementaux. Mais pour Pascal Conan, la communauté scientifique doit-elle aussi agir de manière plus responsable ? Le respect de l'environnement est au cœur de ses valeurs en tant qu'enseignant.
J'essaye déjà de leur transmettre la passion de l'océan que j'ai moi-même découverte lors de mon adolescence. Donc j'essaye de leur inculquer déjà le respect de l'environnement, leur faire comprendre comment fonctionne cet environnement, que c'est un équilibre, que c'est un équilibre fragile sur lequel il est important de bien le comprendre, de bien le maîtriser, et de ne pas jouer les apprentis sorciers. On en parle beaucoup avec la bio-ingénierie aujourd'hui. Hein. On veut faire pleuvoir dans certaines zones, on va mettre des particules dans l'atmosphère. Enfin voilà, c'est des choses qui sont dans l'air du temps. Hein. À mon niveau, moi j'essaye de leur faire comprendre qu'on vit avec la nature et qu'on doit la préserver.
Malgré ces inquiétudes, pas de désespoir pour Pascal Conan, qui continue activement son travail de sensibilisation et de recherche au sein de la communauté pluridisciplinaire de Sorbonne Université. Un environnement qu'il dit très propice pour réussir et faire avancer les choses.
Encore un reportage plus qu'à la hauteur. Toi, Vincent, on retransmet bien l'énergie dans cette émission, parce que c'est le but, l'énergie du campus de la Sorbonne à Banyuls, ça va ?
Ouais, l'énergie est retransmise et surtout toutes les différentes facettes qu'elle a. Ouais.
Ça fait plaisir d'entendre les gens avec qui tu bosses, des profs à toi.
Bah là j'ai pas vraiment de prof, mais tu vois par exemple Pierre Parmentier, je le connais très bien, c'est un ami, ça fait plaisir, ça fait bizarre de les entendre, mais
on leur rend hommage pour l'instant, ça va.
Tout à fait, ouais. Il y a pas de souci.
Tout va bien et d'ailleurs on approche de la fin, mais comme on dit toujours, le meilleur pour la fin.
Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Boule, parce qu'il y a des tas de journalistes qui viennent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon ? Quand ils disent qu'ils viennent, ils viennent pas.
Jeanne et Isa Margaret ont rencontré Marcelino Suzuki, qui leur a parlé d'écologie.
Comment étudier la biodiversité marine de nos jours ? Marcelino Suzuki est professeur-chercheur et responsable de l'unité biodiversité microbienne et biotechnologie à l'Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer. Son travail demande à la fois d'étudier des données à son bureau, mais également de se rendre sur le terrain, lui laissant une grande liberté de champ d'action.
Ah, c'est un type de recherche qui est assez intéressant parce qu'il recouvre plusieurs types d'activités. Tout au départ, ce que nous essayons de faire, c'est de découvrir des nouvelles entités moléculaires d'origine naturelle, provenant de micro-organismes qui sont prélevés à l'environnement à l'origine. Donc, dans ces projets à Malia, nous travaillons avec les bactéries qui ont été isolées à partir de lichens marins. Et nous avons essayé d'explorer la diversité des bactéries qui sont associées à ces lichens, parce que ça comporte un nombre d'espèces qu'on présuppose sont innovantes.
Cependant, la recherche en biodiversité marine est aujourd'hui confrontée à des enjeux de grande envergure avec le réchauffement climatique qui bouleverse la manière de penser le travail de chercheurs.
Je crois que les problèmes majeurs pour le type de travail, voilà, nous ne travaillons pas directement avec ces thématiques des effets, des changements globaux sur les organismes. Nous avons une partie de notre unité qui travaille dans les problèmes dans la problématique de contaminants émergents, type pesticides ou produits de soins personnels. Nous avons un nombre d'études qui ont été faites sur les filtres solaires, l'effet des filtres solaires sur l'environnement marin. Par contre, nous, les changements globaux et la chute de diversité va évidemment affecter les types de recherches que nous faisons et finalement la société, parce que l'idée que nous utilisons dans notre recherche, c'est d'aller chercher des molécules qui sont provenantes de la diversité des organismes marins. Si cette diversité chute, nous allons avoir moins de diversité chimique aussi, donc la possibilité de trouver de nouvelles molécules qui sont d'intérêt pharmaceutique, qui peuvent nous aider à soigner nos maladies, vont être moins importantes. Donc c'est imaginer un peu, c'est le même cas qu'on discute beaucoup pour la forêt amazonienne, toute la biodiversité des plantes qu'on va perdre comme source des substances naturelles, c'est un peu la même chose dans les milieux marins.
Face à ces problèmes climatiques, l'Observatoire océanologique de Bagneux-sur-Mer innove en offrant des conditions de recherche idéales tant par son environnement que par sa capacité d'accueil des élèves.
Les atouts ici à Bagneux, c'est tout d'abord l'accès facile à l'environnement marin, la possibilité de faire des prélèvements de façon relativement facile. Nous avons tout un tas de locaux où nous pouvons faire l'élevage des organismes. Et ici, au troisième étage du bâtiment où nous sommes, nous avons des espaces qui ont été récemment construits, où il y a la plateforme Biodomar, qui a tout un nombre d'instrumentations et personnel d'appui à la recherche, qui nous permet de faire une partie de nos activités. Je crois que voilà, il y a un nombre d'autres types d'activités de recherche. Moi je suis responsable d'une des unités parmi un nombre d'autres unités, et ces échanges entre différentes personnes, c'est enrichissant et nous permet d'avancer notre recherche.
En attendant les études, les élèves peuvent apprécier le front de mer et le soleil du sud.
Alors Vincent, toi, Marcelino Suzuki, tu l'as rencontré?
Alors oui, je l'ai rencontré, c'est le directeur de mon unité de recherche pour le coup.
Et alors On a bien retranscrit son métier dans le reportage.
Ouais, tout à fait. Marcelino Suzuki, c'est quelqu'un qui est super intéressant, qui est très très ouvert, très humain. Donc discuter avec lui, c'est très très sympa. Parfois un peu compliqué de le comprendre parce que on communique plus en anglais la plupart du temps. Mais c'est une personne géniale.
Puis ce qui est bon à savoir, c'est que lui aussi, il a fait de la radio à l'université de l'Oregon aux États-Unis. Il était DJ sur la radio.
Alors,
un homme de radio, donc.
Marcelino,
tu peux nous
c'est...
expliquer pourquoi est-ce qu'on a du mal à le comprendre? Parce que du coup, on a compris qu'il avait un fort accent.
Alors, Marcelino, quand on me l'a présenté, moi, j'ai un peu bégayé sur le personnage parce que ses parents sont japonais. Il est né au Brésil. Il a fait ses études aux États-Unis, du coup, je ne sais plus dans quelle partie des États-Unis, mais il a rencontré sa femme là-bas.
États-Unis, à Rio. L'Université de Rio de Grande, un truc comme ça.
Ok.
Mais il était en Amérique. Là.
Et il a rencontré sa femme aux États-Unis et maintenant il vit en France. Donc moi j'imagine que les enfants sont au minimum trilingues avec un passif comme ça, c'est pas mal.
Au moins. Mais d'ailleurs. qu'est-ce qu'il y a?
Dans le micro.
Mais c'est pas moi qui fais ce bruit depuis tout à l'heure.
Je te jure, c'est toi.
Mais ce n'est pas moi. Bon, bref. Moi, j'allais dire qu'on s'amuse ensemble trop et qu'on pourrait faire ça toute la nuit.
Oula, non, je t'aime dans la belle, mais j'ai un peu une vie quand même, et je suis un peu malade en plus.
C'est vrai qu'on n'est pas comme Thomas à boire, manger, dormir, radio.
Mais bref, c'est déjà la fin de cet épisode spécial de Cours d'honneur.
Une page se tourne avec ce dernier épisode délocalisé de la saison.
Mais il nous reste encore une saison à finir, alors ne vous inquiétez pas.
L'équipe de Cours d'honneur reste pour encore plus de plaisir.
Qui sait, l'année prochaine, c'est peut-être en stade que vous nous retrouverez.
Merci à toute l'équipe, évidemment, Victoire, merci.
Merci à vous.
Merci Maëlys.
Merci beaucoup.
Jeanne, merci d'avoir été là.
Merci beaucoup.
Merci Lilou.
Merci papa, maman.
Madeleine, merci beaucoup.
Merci.
Sora.
Merci.
La meilleure. Isa Margaret.
Merci à tous.
Et bravo, super régisseur Banulin.
Qui n'a pas de micro, mais...
Merci, merci, mais surtout...
Merci.
Surtout un immense bravo à Lodine. Lodine, non mais je voudrais qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît, parce que... Et vous l'avez, nos auditeurs l'ont entendu, elle n'a plus de voix. Elle est au bout de sa vie, et pourtant, elle tient le micro RSU entre ses mains, elle ne le lâche pas. Elle ne le lâchera pas pour la radio, pour l'honneur de Cours d'honneur. Bravo, bravo, Lodine.
Et merci, Vincent, d'avoir été là. Tu t'es amusé, ça va?
Avec un ouais, grand plaisir d'être venu.
Si tu repasses à Paris, tu viens nous voir.
Y a pas de souci.
On est en rue Victor Cousin.
Et moi, je tiens à remercier Abel aussi qui m'a soutenu tout le long de cette émission.
Merci. Nous sommes un duo. L'un sur l'autre, ça ne marche pas.
C'est ça qu'on remercie. Tu es une famille.
C'est l'ami.
Tu es la famille.
Et on remercie aussi Radio Campus et le service culturel qui nous ont permis d'être ici.
Merci à l'Observatoire océanologique de Banouls pour leur accueil.
Et merci à tous les gens qu'on a pu rencontrer ce week-end.
On se retrouve dans 2 semaines pour une émission un peu plus classique, mais toujours aussi bien. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous, bisous.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter. T'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit ou...
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.